cœur vers toi pour te dire merci pour ce jour où tu nous as renouvelé la vie. Merci Père oh Dieu pour les activités que nous avons eues en ce jour. Maintenant Père oh Dieu, en ces temps du soir, nous nous attendons à toi Père pour que tu nous conduises. Pardonne nos offenses oh Dieu et lave-nous de toute souillure. Conduis-nous Père, soutiens-nous Père. Nous recommandons nos âmes entre tes mains Père. Que ta grâce, ô Dieu, nous visite, que ton esprit nous conduise pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'Abraham. C'est le père de la foi. Et nous voulons un peu voir comment a été sa marche. Et combien Dieu a été miséricordieux et plein de grâce pour lui. Alors, qui était Abraham? Il était l'aîné d'une famille de 3 enfants. Il y avait donc 3, ils étaient 3. Il y avait Abraham qui était l'aîné. Il y avait Nakhor et Haran. Et le papa s'appelait Terak. Il était âgé de 70 ans lorsque naquit Abraham. Et toute la famille vivait en Ur, en Chaldée. C'est la Mésopotamie, du côté de l'Irak. Ur était l'une des villes les plus importantes de la Mésopotamie. Et c'était un port économiquement prospère. C'est un peu comme le port d'Anvers ici. Et sous le règne de Ur, Namu, c'était un roi, et de son successeur Shulgi, Ur fut la capitale d'un puissant empire. C'est la ville lumière. Elle était très développée au niveau économique, au niveau politique et au niveau spirituel. Et du point de vue religieux, Ur était surtout connue à cause de son sanctuaire dédié au dieu Nana au lever brillant, le dieu lune, qui était symbole de fertilité. Mais en réalité, c'était une ville polythéiste, parce qu'on y invoquait tant d'autres dieux comme Uta, l'équivalent solaire du dieu Lune, Ishtar, que nous connaissons souvent, que nous entendons souvent parler, la guerrière. Et c'est là que le père d'Abraham, avec sa famille, vivait. C'est-à-dire au milieu d'un peuple, il y avait plusieurs dieux. Nous pouvons penser qu'Abraham était d'une famille d'un rang social élevé. Et son nom signifie « père élevé ». Et les noms ont souvent des significations, particulièrement dans la Bible. Tout allait bien pour Abraham, mais il y avait quelque chose qui lui manquait, c'est qu'il n'avait pas de progéniture. Et pourtant, il voulait une progéniture. Certainement, lui et sa femme ont dû consulter beaucoup de médecins, de guérisseurs, ou même de femmes prophétesses, parce qu'en ces temps-là, il y avait des prophétesses qui servaient au temple du dieu Lune. Malheureusement, Sarah ne pouvait pas concevoir. Et nous savons la raison pour laquelle Sarah ne pouvait pas concevoir, c'est que Dieu l'avait rendue stérile. C'est ce qui est dit un peu dans, si vous lisez la Bible. Ce qui nous montre que même quand on connaît Dieu, même quand on ne connaît pas Dieu, Dieu nous connaît dans toutes nos voies. Que vous ayez été chrétien avant ou pas, ça n'a pas d'importance. Dieu nous connaît. Bien, Haran, père de Lot, mourut. Et donc Lot devint orphelin. Nous ne savons pour quelle raison Terak, le père d'Abraham, prit Abraham et sa femme, Lot, donc le neveu d'Abraham, et ils sortirent de Dur pour aller en Chaldée. C'est là qu'ils vont s'installer. Normalement, ils devaient aller au pays de Cana, mais en cours de route, ils sont installés en Chaldée. Ils s'installèrent à Charan. Et à Charan, c'est là où le père d'Abraham mourut. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Abraham s'y est enrichi. Il y eut des serviteurs et tant de richesses. Et si nous poussons un peu plus loin, Abraham pouvait divorcer de sa femme, comme c'est souvent le cas en Afrique. Lorsque la femme n'enfante pas, on la chasse simplement. On ne se pose même pas la question si c'est l'homme qui a un problème ou pas. La pression de la famille est telle que souvent l'homme cède. C'est toujours la femme qui est incriminée. Malgré cela, Abraham est resté fidèle à sa femme. Malgré les regards moqueurs de la société, la pression de la famille, il est resté fidèle à Sarai. Abraham n'est pas parti faire des enfants ailleurs. Comme je disais, Dieu connaît votre vie avant que vous ne veniez à lui. Donc ne dites pas, mais j'étais, parce que là j'étais païen. Dieu connaissait tes voies. Il savait exactement par où tu passerais. C'est pourquoi il ne faut pas se moquer de quelqu'un ou le dénigrer, car tu ne sais pas ce qu'il deviendra un jour. Et surtout, ne méprisez pas les gens, car si Dieu n'a pas encore mis un point final à l'histoire d'une personne, n'en mettez pas. Abraham, je pense, avait perdu tout espoir d'avoir une progéniture, mais il ne savait pas que sa vie va être bouleversée par un Dieu inconnu qui va lui parler. La plupart des temps, c'est quand l'homme est confronté à un problème dont il n'a pas d'issue que il s'approche ou que Dieu s'approche de lui, car c'est à ce moment-là qu'il est prêt à écouter. L'homme est souvent réceptif dans ce cas-là, car Dieu devient comme l'ultime secours ou l'ultime recours. Souvenez-vous, pour certains d'entre vous, comment vous êtes venus à Christ, c'est à quoi vous étiez confrontés, quel était le problème sans issue qui était devant vous. Chacun a son histoire. À la mort de Térakh, je disais que Lot est resté orphelin, et Abraham l'a pris comme son fils. Il va le prendre sous ses ailes. C'était sa famille, c'était son neveu. Et comme je disais aussi, Abraham va s'enrichir à Charan. Nous allons lire dans Genèse 12, à partir du verset 1 jusqu'à 5. L'Éternel dit à Abraham: Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. On va prier. Seigneur, merci pour la lecture de ta parole. Nous implorons ta grâce, Père, pour nous conduire, ô Dieu, pendant ces quelques moments. Que le Saint-Esprit éclaire chacun de nous, Père, et que chacun ait sa part pour ce jour. Reçois honneur, louange et gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Donc, Abraham va quitter son pays, la maison de son père, après l'appel divin. Le fait de partir n'était que le début d'une longue marche parsemée d'épreuves. Ce qui montre que l'appel divin, l'appel de Dieu, ne te garantit pas que ta vie sera facile. Cette marche peut être séquencée en cinq phases. L'arrivée en terre promise, qui montrait que Dieu ne ment pas. L'exil à cause de la famine. Abraham va se retrouver en Égypte. Le retour d'exil, parce qu'il va être chassé d'Égypte. Et la progéniture, il va avoir en fait Isaac. Ensuite, le sacrifice ultime, où Dieu lui demande de sacrifier son fils. D'une manière ou d'une autre, chacun passe par une ou deux étapes, ou même tout. Ça dépend comment Dieu a planifié ta vie. Alors, l'appel de Dieu pour la terre promise, Dieu lui dit de quitter son pays. Et je crois que nous avons parlé la fois passée que ceci est comme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Abraham partit avec sa femme, et dès que l'homme s'attache à sa femme, c'est maintenant la femme qui suit son mari, qui devient son protecteur. Car comme la fois passée, on avait pris cette allégorie de la locomotive et du wagon, l'homme ne s'attache pas à sa femme pour rester dans la maison de son beau-père, mais c'est pour attirer la femme et, entre guillemets, la retirer de son cercle familial pour une odyssée, une nouvelle odyssée de la vie. Les parents sont donc comparables à des auteurs éditeurs d'un livre où ils vont écrire des choses dans la vie de l'enfant. Ils vont l'enseigner, ils vont l'instruire, et c'est là qu'il va être formé. Et c'est Dieu qui leur confie cet enfant pendant un temps. Ils sont censés les préparer à tous les niveaux avant qu'il aille vers sa destination lui assignée par Dieu. Comme une lettre, l'enfant est censé contenir toutes les informations dont il a besoin pour sa vie. Ce que vous y écrivez est déterminant pour la suite de la vie de l'enfant. Et une bonne préparation augmente grandement les chances d'une vie réussie et épanouie. Et c'est dans la famille que cela se passe premièrement. Abraham va arriver au pays promis. Il va les parcourir jusqu'à Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. C'est là que Dieu va lui apparaître pour la première fois dans la terre promise. Et c'est là qu'il lui réitère sa promesse. Abraham y bâtit un autel. Comme nous l'avons vu la fois passée, il y a d'abord le pays que Dieu donne, ensuite vient la postérité. C'est dans cet ordre-là que Dieu donne les choses. Il faut d'abord créer l'environnement avant de semer la graine. Jeune homme, aie d'abord un endroit à toi où tu habiteras avec ta femme avant de te marier et de commencer à faire des enfants. Sinon, vous serez errant avec vos enfants. Tu peux être locataire ou propriétaire, ce n'est pas un problème, mais assume tes responsabilités. Quoi qu'il en soit, bats-toi pour avoir un chez toi. Très, très important. Notez, avant que la femme ne soit formée, Dieu avait d'abord placé Adam dans le jardin. La femme arrive dans les conditions idéales. En plus, si tu dois te marier, évite de longues fiançailles. Pour cela, prépare-toi en conséquence pour ne pas tirer en longueur des fiançailles. Vous êtes assez mature pour les réaliser. Ne fais surtout pas comme Jacob qui a attendu 7 ans pour se marier. Mais il en avait la force et le caractère, car il a tenu bon sans commettre des impairs, car il voulait honorer son oncle, sa famille et sa future épouse. Même si une lecture profonde nous fait comprendre que derrière ces 7 ans se cache le type d'une réalité spirituelle beaucoup plus grande en rapport avec Christ. Nous voyons que dès qu'il a payé la dot, le prix demandé par Laban, il a voulu prendre sa femme. Mais l'oncle avait son plan pour lui refiler d'abord l'aîné Léa. selon la coutume que ne connaissait probablement pas Jacob. Renseigne-toi des coutumes de ta future fiancée et de ton futur fiancé, car des surprises peuvent t'attendre. Quoi qu'il en soit, la nuit de noces pour lui fut une surprise. Il brûlait tellement de désirs qu'il n'a même pas remarqué que la femme de sa nuit de noces n'était pas celle qu'il avait choisie. Restez quand même lucide lorsque vous vous mariez. Autre chose, la dot n'est pas un prix de vente de la fille, car il y en a qui demandent beaucoup d'argent et de biens. C'est un type de rachat comme le Seigneur Jésus-Christ a racheté son épouse. Le véritable rachat, c'est le sacrifice que l'homme fait pour sa femme et non une valeur vénale. Par conséquent, ne soyez pas comme Laban qui avait un esprit mercantile, car à un moment donné, ses filles le lui ont reproché dans Genèse 31, à partir du verset 14. C'est lors du départ de Jacob pour Bethel, où il devait quitter en fait Laban. Donc, Genèse 31, 14, Rachel et Léa répondirent et lui dirent, « Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père ? Ne sommes-nous pas regardés pour lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent ? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et à nos enfants. » Ici, elles se servent. C'est comme s'ils voulaient réparer les torts que le papa leur a commis ou leur a fait. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Bien. Évitez, dans la mesure du possible, de rentrer dans les mariages avec des dettes, car cela peut amener des tensions dans la maison qui sont normalement évitables par une bonne gestion de l'argent. Abraham a quitté Charan à 75 ans. Dieu va le préparer pendant 25 ans. Et Dieu va aussi préparer Sarai pendant 25 ans, avant que l'enfant promis, les fruits de leurs entrailles, ne viennent au monde. À eux deux, ils totalisaient 50 ans. Et 50 ans, nous savons que c'est le jubilé de Dieu, ou le jubilé tout simplement. Et après 50 ans de préparation à eux deux, hein, 25 plus 25, c'était le jubilé dans leur maison. Car c'est là que Isaac va venir. Fini la honte de la stérilité. Nous en avons déjà parlé. Abraham typifie la femme et Dieu l'homme. Parce que c'est Dieu qui va entrer en alliance avec Abraham. Et c'est l'homme qui entre en alliance avec sa femme. C'est pourquoi l'homme est responsable de sa femme. N'oubliez pas que la femme est un tabernacle, c'est-à-dire la demeure de l'homme. On reviendra peut-être à une autre occasion sur ce point. Dieu fait à Abraham des promesses, tout comme le jeune homme fait des promesses à celle qu'il envisage d'épouser. Dieu tient parole, alors le jeune homme qui promet doit aussi tenir parole. Promettez ce qui est réalisable, même si les jeunes filles aiment entendre ce qui les fait rêver. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. On va passer. Abraham a vu de ses propres yeux le pays que Dieu lui a promis. Mais le pays était habité par les Cananéens. Première difficulté dans la terre promise. Un grand obstacle. Comment posséder le pays alors qu'il y a les Cananéens qui s'y tiennent ou qui y habitent? Il n'a pas d'armée pour conquérir le pays. Et il se retrouve étranger dans le pays que Dieu lui donne. Ça paraît un paradoxe. Même s'il possède beaucoup de biens et de serviteurs acquis à Charan, ce n'est pas suffisant pour conquérir les pays. Il a foulé ses pieds dans la terre promise, mais ce n'était pas encore le temps de les conquérir. Et pourtant, nous voyons que plus tard, qu'il a bâti la coalition des rois dirigée par Kéder Laomer. Et c'était avec des serviteurs. Mais si nous examinons plus en profondeur, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je rendrai ton nom grand. C'est quelque chose à venir. Et je donnerai ce pays à ta postérité après qu'elle y sera asservie pendant 400 ans. Donc, ce n'était pas le temps de la conquête. Et de toute façon, c'était plus pour sa postérité. Mais le fait qu'il ait foulé les pieds dans ces pays, c'était une grande consolation pour lui. Et certainement, il a compris que ce que Dieu promet, il l'accomplit. Malheureusement, ça devient compliqué pour lui. Il va devoir s'exiler à cause de la famine. Il va partir en Égypte. Donc, un deuxième obstacle vient remettre presque en cause la promesse de Dieu. Une grande famine va s'abattre dans le pays qui est censé lui appartenir, et alors il doit s'exiler et devenir réfugié en Égypte. Abraham pouvait se poser des questions. Ai-je vraiment entendu la voix de Dieu? Et si Dieu est avec moi, pourquoi il permet la famine et que je quitte le pays promis pour devenir un réfugié économique? Les voies de Dieu sont insondables. Enfin, le voilà qui descend en Égypte avec sa famille. Nous pouvons nous imaginer, s'il avait dit aux Cananéens que ce pays est à moi, on lui aurait ri au nez. On lui aurait pris pour un fou. Et pourtant, c'était la vérité que ce pays était à lui et à sa postérité. C'est ça l'œuvre de la foi. Posséder la chose, même si tu ne vois pas encore la chose là devant tes yeux. Le tout, c'est être certain de Dieu. Accrochez-vous à la promesse que Dieu vous a faite. C'est la seule chose. Beaucoup ont émigré à cause de la famine ou de la recherche d'une vie décente. Quoi de plus normal dans ces cas? Sachez que la vie peut prendre une tournure inattendue et parfois dramatique. Ils sont partis en Égypte, ne sachant pas ce qui les attendait là-bas, comme beaucoup ont quitté leur pays pour s'installer ailleurs, ne sachant pas ce qui les attend dans ces pays. Une chose qu'on peut remarquer, l'Égypte a toujours été une terre d'exil pour les enfants d'Israël, à des périodes bien précises. Abraham est descendu en Égypte pour s'y réfugier à cause de la famine. Jacob et sa famille s'y sont réfugiés à cause de la famine en Canaan. C'était au temps où Joseph était premier ministre en Égypte. Dans les deux cas, Abraham, aussi bien que Joseph et Israël, pardon, aussi bien qu'Israël, ils sont sortis avec beaucoup de biens qui venaient de l'Égypte. C'est l'Égypte qui a donné naissance au peuple d'Israël. L'histoire d'Israël est imbriquée avec l'histoire d'Égypte. C'est en Égypte que Moïse est né. La reine de Séba a rendu visite au roi Salomon et a loué la sagesse de Salomon. On raconte même qu'elle a eu des enfants avec Salomon. La Bible n'en parle pas. Les fournitures du tabernacle, l'or, l'argent, les pierres précieuses et tout ce qui allait dans les tabernacles dans le désert venaient de l'Égypte. Vous pouvez lire, hein, ils ont dépouillé les Égyptiens avant de quitter. C'est assez étonnant de voir que l'Afrique est comme le réservoir où on va prendre tout ce qu'il faut. Aujourd'hui aussi, c'est pareil, hein. Les réservoirs des minéraux stratégiques, beaucoup de richesses y sont cachées. Il n'y a que les Africains qui ne savent pas quelles sont les richesses qui y sont cachées. Le Seigneur Jésus et ses parents se sont réfugiés en Égypte. car Hérode cherchait à le faire périr. Il y a eu des échanges fructueux et abondants entre l'Égypte et Israël dans les temps passés. Et lorsqu'il y avait des guerres en Israël, beaucoup se sont réfugiés en Égypte. Alexandrie fut un grand centre hellénistique et un grand port d'Égypte. C'est là qu'il y eut une grande diaspora juive. Hellénisée, c'est vrai, c'était du temps de Ptolémée II qui a régné sur l'Égypte. Il semble que c'est à sa demande que la Bible Septante a été écrite. Tu ne peux pas séparer l'histoire d'Israël de l'histoire de l'Égypte. Naturellement, il y a eu des temps où le peuple d'Israël était haï et persécuté en Égypte, comme cela se passe encore aujourd'hui. C'est quand les hommes s'éloignent de Dieu, quand la méchanceté abonde, que l'autre devient une menace pour notre bien-être. C'est comme ça encore aujourd'hui, on parle de l'antisémitisme, mais Dieu a toujours ses yeux sur ses peuples, persécutés, haïs, mais jamais détruits. Est-il un peuple parfait? Non, loin de là, car il commet beaucoup d'atrocités et tant d'autres choses. Mais Dieu a un plan pour ses peuples. Il punit l'iniquité, mais ne retire pas sa grâce. Bien, Abraham va se réfugier en Égypte avec sa femme et Lot. Abraham se rend compte que la beauté de Sarah est un problème et que cela risque devient une menace pour sa vie. Son imagination et sa peur pour sa vie vont lui jouer des tours. Il va alors concocter une stratégie diabolique. On va lire dans Genèse 12. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront que c'est sa femme. Ça, c'est l'imagination, hein, qui rentre en jeu là. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Nous parlons de la père, du père de la foi. Hein. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Abraham a vu sa femme belle, mais les Égyptiens l'ont vue fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux, pour qu'il soit bien traité. Abraham va demander à sa femme de mentir et dire qu'elle est sa sœur, ce qui était une demi-vérité, car ils étaient d'un même père, mais pas d'une même mère. On peut remarquer que Abraham s'est marié dans sa propre famille. C'est pourquoi un enfant de Dieu, autant la fille que le jeune homme, doit se marier dans la famille des enfants de Dieu. Je ne dis pas qu'il doit se marier à l'assemblée. Tant que c'est un enfant de Dieu, que ce soit à l'assemblée ou en dehors de l'assemblée, peu importe, mais que les deux soient en Christ. C'est une affaire de famille, de la famille de Dieu. Quel enfant de Dieu désire avoir comme beau-père le diable, comme disait un prédicateur? Difficile d'avoir des réunions paisibles. Bien, c'était bien sa sœur, mais c'était une demi-vérité. Et une demi-vérité est un mensonge. Tu ne peux pas découper la vérité en deux et prendre seulement la part qui plaide pour ta cause pour te tirer d'affaire. Si tu dissimules volontairement quelque chose, tu n'es pas dans la vérité, car la vérité est un tout. Ou c'est la vérité, ou ce n'est pas la vérité. Et les conséquences vont être lourdes pour Abraham. Ce que peut faire la peur. Le frère François en a parlé très récemment. La peur est un manque de foi. Et celui qui a peur n'est pas dans l'amour. Car l'amour parfait bannit la crainte, bannit la peur. Ici, Abraham veut sauver sa peau. À cause de cela, Sarai va accepter de subir la pire humiliation qu'une femme puisse subir, que son mari puisse les pousser à se livrer en pâture parce qu'il veut sauver sa vie. Naturellement, Sarah accepta parce qu'il voulait que son mari vive. Il a donc dû se sacrifier pour lui. C'est un peu l'inversion des choses ici. Normalement, c'est l'homme qui se sacrifie pour sa femme. Mais ici, c'est Sarah qui se sacrifie pour sa femme. Pour son mari, merci, pour son mari. Et il n'y a pas beaucoup de femmes qui arriveraient à cette extrémité. Que Dieu vous en préserve. En disant qu'elle était sa sœur, elle l'exposait. Quand elle a été amenée au palais, Abraham devait probablement prier intérieurement. « Oh Seigneur, fasse qu'il ne lui arrive rien de mal. Fasse que Pharaon devienne impuissant. » Dieu a-t-il empêché le mal d'arriver? Non. Et ce qu'Abraham pouvait craindre arriva. Pharaon l'a prise comme femme. Et à cause d'elle, Abraham fut bien traité. Vous parlez de la puissance d'une femme. Abraham, qui est descendu en Égypte avec peu de biens, se retrouva à nouveau riche. C'est ce qu'on a lu plus haut. Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Et nous voyons que Dieu va frapper Pharaon. C'est Dieu qui protège son enfant. Même si les choses qui ont été faites n'étaient pas bonnes. Donc nous voyons que Abraham devient riche en Égypte en prostituant presque sa femme. Comment Abraham devait-il se sentir après? C'est dur, hein? Ouais. Nous verrons que cela a eu des conséquences dans le comportement d'Abraham vis-à-vis de Sarah. Et Sarah va presque lui rendre l'appareil, dans le sens où il va mettre sa servante sur la couche d'Abraham. Mais en regardant très bien, c'est le diable qui essayait de contrecarrer les plans de Dieu. Terrible, hein? C'est le père de la foi. Mais cela nous montre que l'homme n'est qu'homme et que c'est Dieu seul qui fait tout. Si Dieu ne vous tient pas, vous commettrez les pires bêtises. Les mensonges peuvent t'amener très loin. Et briser la communion, car la vérité continuera à résonner dans ta conscience, à te tourmenter jusqu'à ce que les mensonges soient dénoncés et confessés. C'est la conscience. Le frère François en a parlé, c'était dimanche, je crois, avec la conscience. Qu'est-ce qui s'était passé dans la tête d'Abraham pour agir ainsi? S'était-il convaincu que sa femme, étant de toute façon ménopausée, elle ne tombera jamais enceinte? Et qu'est-ce qui arriverait? Qu'est-ce qui se serait arrivé si Pharaon s'était attaché à elle, donc à Sarah, et qu'il ait décidé de la garder comme femme? Vois comment le diable pouvait casser les plans de Dieu. Heureusement, Pharaon ne l'a pas fait parce qu'il a été frappé. Et puisqu'il a été frappé, il a dû chasser Abraham. Abraham est parti avec beaucoup de richesses. Tout ça parce que le diable savait qu'il y a un fils qui devait venir, Isaac, qui est un type de Jésus-Christ. Il avait déjà commencé à contrecarrer les plans de Dieu. Dites la vérité et vous serez en paix avec vous-même. Dites la vérité et vous serez en paix avec les autres. Dites la vérité et vous serez en paix avec Dieu. Ce qui veut dire que Dieu veut que nous soyons en paix avec lui, que nous soyons en paix avec les autres, que nous soyons en paix avec nous-mêmes. Comment être en paix avec Dieu? En demandant pardon à Dieu pour le mal que tu lui as fait. Le frère François en a parlé. C'est quoi une offense à Dieu? On va voir ici un exemple. Lisons Ésaïe 1er à partir du verset 12. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Salomon. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande d'essuyer mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir les crimes s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, c'est l'exhortation que Dieu fait ici. Purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Voilà une offense à Dieu. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Après, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Dieu donne le moyen de régler les problèmes avec lui si vous l'offensez. Et il dit ce qu'il faut faire. Comment être en paix avec les autres? C'est en confessant ses péchés et en demandant pardon à qui on a fait offense. Dans Matthieu 5, 23-24, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Le faisons-nous vraiment? C'est une question. Et comme ça, nous suivons encore l'autel de Dieu. Et l'autel de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas seulement à l'assemblée, hein, mais c'est chez toi aussi. C'est en toi, si Dieu habite en toi. Dans la majorité des cas, tu viens offrir des sacrifices, des louanges à Dieu, et tu dis que j'ai été béni. C'est un mensonge du diable si tu as quelque chose contre ton frère. On trouve souvent des excuses pour ne pas le faire. Tu te convaincs toi-même que tu es béni. C'est l'auto-séduction. Il aurait mieux valu pour toi de rester chez toi au lieu de venir souiller l'autel, car c'est de la désobéissance. On a lu quand vous adressez des prières, Dieu dit je détourne mon oreille. Combien de prières hypocrites ne faisons-nous pas? Et nous levons nos mains vers Dieu et nous dansons. Tout va bien, Madame la Marquise. Tout va bien, Monsieur le Marquis. Avec de tels comportements, nous ne sommes pas sérieux, ni avec nous-mêmes, ni avec Dieu. Comment être en paix avec les autres? C'est en demandant pardon pour le mal que tu leur as fait. Et en réparant, s'il y a lieu de réparer. Le pardon ne peut être forcé. Il découle d'un cœur contrit pour le mal fait à autrui. C'est un processus d'abord intérieur. C'est une attitude de cœur qui reconnaît avoir fauté et causé du tort ou blessé l'autre. Il faut essayer de se mettre à la place de l'autre. La peine causée à l'offensé avant d'aller demander pardon. Sinon, ça ne sert à rien. Et se poser la question, et si c'était à moi que l'on avait fait cela, comment aurais-je réagi? Autre chose, quand c'est pardonné, plus de traces d'amertume ou de pincements de cœur. Tant que c'est encore là, il y a encore un problème. C'est que ton cœur n'est pas encore guéri de cette blessure. Car parfois la guérison peut prendre du temps. Prie Dieu et demande la force de surmonter cela. Ton pardon doit être sincère et ne rappelle jamais à ton frère ou à ta sœur, à l'offenseur, le mal qu'il t'a déjà fait dans le passé s'il revient te demander pardon pour une autre chose, car cela risque d'envenimer les choses et décevoir l'autre. Celui qui rappelle les fautes est frère de celui qui divise. Nous avons ici un exemple d'un cœur contrit et repentant. Lisons Luc 15, à partir du verset 17. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, « Combien de mercenaires chez mon père ?» Il s'agit de l'enfant prodige. Prodige ou prodigue ? Prodige.
Prodigue.
Prodigue. Merci. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Cet enfant a dilapidé les biens, la part de son héritage qu'il avait réclamé à son père avant même que celui-ci ne meure. Il est parti et il a tout dilapidé dans toutes sortes de plaisirs et se retrouva dépourvu quand la famine vint. Et là, il est rentré en lui-même. C'est le processus de pardon. Il est rentré en lui-même car sa situation était critique. Fallait-il en arriver là pour s'en rendre compte? C'est là seulement qu'il prend conscience du mal qu'il a fait à son père. Et il va s'élever de lui-même. C'est la conscience qui parle. Il va s'élever de lui-même et il va se rendre auprès de son père. Il a concocté déjà, il a fait déjà sa stratégie. Hein? J'ai péché contre le ciel, contre toi, c'est bien. Je suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Donc il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ça, c'est le pardon. Il va aller demander pardon. Le pardon venant d'un cœur repentant est en quelque sorte une réparation spirituelle. J'insiste sur le mot réparation spirituelle. Le fait qu'il revienne par lui-même chez son père a fait comprendre au père que la démarche que l'enfant faisait était sincère. L'enfant voulait rétablir la connexion, apaiser la situation et aboutir normalement à la réconciliation. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Nous savons qu'un mercenaire, c'est quelqu'un qui fait la sale besogne pour un autre. Et pour réparer en quelque sorte sa faute, il veut travailler comme mercenaire. Parce qu'il sait qu'il a dilapidé le bien de son père. Ce qui serait comme une compensation pour l'héritage dilapidé. C'était comme une réparation financière. Ici, le fils ne cherchait même pas la réconciliation. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Je veux travailler comme un mercenaire. Paye-moi alors ce que tu voudras. Parce que de toute façon, j'ai dilapidé tous tes biens. Mais la joie du père de retrouver son fils perdu était tellement grande que tout ce que le fils avait imaginé de dire n'avait vraiment pas d'importance pour le père. Je me demande même si le fils a pu quand même dire ce qu'il voulait dire à son père. Je ne pense pas qu'il devait encore un jour quitter son père. Parce que le mal qu'il lui a fait était tellement grand. Et certainement, c'est quelque chose qu'il a poursuivi pendant toute sa vie. Pour terminer, comment être en paix avec soi-même? On peut pardonner aux autres, mais combien il est si souvent difficile de se pardonner à soi-même? Et cela ronge le cœur au point où des gens parfois en tombent malades. On parle de maladies psychosomatiques. Il faut reconnaître qu'on est des êtres vulnérables et qui nous arrive à commettre des fautes. Ne te crois pas plus saint que tu ne l'es. On n'est pas des superman ou des superwoman. Et savoir reconnaître ses torts et savoir se les pardonner à soi-même est une grande victoire. Lorsqu'on a fait ce que Dieu demande. Beaucoup de vies sont rongées par une culpabilité des choses mauvaises qu'ils ont commises. Si tu as fait ce que tu dois faire selon Dieu, alors sois en paix. Il faut savoir se pardonner. Ne vous flagellez pas pendant toute votre vie. Demandez pardon, réparez s'il y a lieu et continuez à avancer. Soyez seulement sûr de faire la chose juste. Je sais que c'est difficile car des remords te rongent et t'empêchent d'avancer à cause du poids d'un passé dont tu n'arrives plus à te débarrasser. Je dirais que tu ne peux pas ramasser l'eau renversée, mais tu peux faire que l'eau que tu portes encore ne se renverse plus. Fais attention à toi. On va s'arrêter là. On continuera, si Dieu le veut, la fois prochaine, avec la vie d'Abraham. Comment se pardonner? Comment pardonner aux autres? Comment régler son problème avec Dieu? C'était le thème. Et le titre, c'est « Les épreuves d'Abraham ». Ce n'est que le début. On continuera pour voir combien la grâce de Dieu est grande pour chacun de nous. comme il a été pour Abraham. Prions. Bien-aimé Père, nous cheminons dans cette vie, parfois Père, portant les poids des événements passés. Nous cheminons dans cette vie, parfois connaissant des voies au Dieu de miséricorde ou ayant suivi des chemins, des hontes, comme au Dieu, le Père de la foi a marché. Il a suivi des sentiers qui, oh, lorsque nous regardons, nous pouvons voir que ta grâce, Père éternel, ô Dieu. Car en tant qu'humain, ô Dieu, il a fait n'importe quoi. Mais ta grâce va agir, ta grâce va intervenir, Père, jusqu'à ce que, Père, ô Dieu, tu fasses alliance avec Abraham. Et c'est lorsque Abraham entra dans cette alliance, Père, que les choses deviennent différentes. Aide chacun, Père, dans sa marche. Tu connais où chacun se trouve. Tu connais où chacun, Père éternel, ou Dieu, a un poids qu'il porte dans son cœur. Que ta grâce, Père, ô Dieu, entre en scène, Père, pour l'aider à faire la chose juste. Car lorsqu'on fait la chose juste, le cœur est apaisé. Que la paix de Dieu soit sur chacun, Père. Que la grâce de Dieu environne chacun. Merci pour ce quelque temps que tu nous as donné. Merci, Père, de nous aider à ruminer ces choses, Père éternel, ô Dieu. Et aide-nous, Père, car nous avons besoin de toi pour chaque pas que nous faisons. Bénis chacun de nous, Père. Soutiens chaque âme. Que ta paix, que ta grâce comble nos vies, Père éternel, ô Dieu. Nous recommandons notre chemin de retour entre tes mains. Garde-nous, préserve-nous du mal et du malin. Et s'il y a encore un lendemain pour nous, lorsque nous nous reverrons, Père, nous bénirons ton nom. Gloire te soit rendue dans le nom béni de Jésus-Christ. Amen.